Alors, si tu viens me suivre, on va aller dans Genèse, chapitre 14, et versets 17 à 24. Genèse, chapitre 14, versets 17 à 24. Et le roi de Sodome sortit au-devant de lui, après qu'il fut revenu de battre Kedar la Homère, et les rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre. » Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends les richesses pour toi. » Et Abraham dit au roi de Sodome, « Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre, que je ne prendrai pas même un fil ou une courroie de souliers, rien qui t'appartienne, en sorte que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce que les jeunes gens ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eskol et Mamré, pour eux qu'ils prennent leur part. » Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Notre Dieu, on a des choses très importantes à apprendre du comportement d'Abraham et de sa rencontre avec les deux rois, Melchisédek et le roi de Sodome. C'est rempli de grandes leçons pour nous. Alors, Seigneur, on implore ta miséricorde, ta bonté, ta grâce, pour que tu nous accordes l'éclairage, la lumière de ton Saint-Esprit, la direction de ton Saint-Esprit, pour que nos cœurs soient réceptifs, ouverts à la compréhension des versets et surtout à la compréhension et à l'application dans nos vies de tous les jours des principes qui y sont enseignés de manière à ce que, Seigneur, ça transforme quelque chose en nous et que ça t'apporte honneur et gloire. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on va faire une révision de ce qu'on a vu la semaine dernière, parce que dans le fond, c'est un tout, l'ensemble des versets qu'on étudie. Alors, j'avais intitulé la leçon « Le retour triomphal d'Abraham de la guerre et sa rencontre avec deux rois ». Alors, on l'a vu dans le texte, qu'il a rencontré deux personnes, et un qui s'appelait Melchisédek, l'autre s'appelait le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de Sodome. Alors, on le sait que le Très-Haut avait permis la guerre et on avait mentionné que Dieu est toujours au contrôle de toutes les guerres qui peuvent se passer sur la terre, peu importe dans quel pays, peu importe les circonstances, Dieu est au contrôle. Il s'en sert pour deux choses normalement, soit punir les méchants ou soit juger son peuple. Alors, on a appris qu'il a le contrôle de façon souveraine et absolue et qu'il est le créateur, il est le maître des cieux et de la terre. Et je pense que dans le mot « El Elyon », on apprend quelque chose concernant qui il est, Dieu. Il contrôle absolument toutes choses sans aucune exception. Donc, il contrôle les nations, il contrôle les individus, il contrôle les événements et il contrôle les circonstances de nos vies dans les moindres détails. Alors, le Seigneur avait accordé à Abraham une victoire éclatante dans cette guerre-là, qui était une guerre entre les cinq rois et les quatre autres rois. Et il avait accordé vraiment une victoire éclatante. Et Abraham avait agi d'une façon très intelligente, il avait agi de façon très rapide, il avait agi de façon courageuse, audacieuse, dans la reprise des biens et des personnes qui avaient été pris par les rois. Alors, il avait pu délivrer son neveu, Lot, qui avait été s'installer dans la région de Sodome, malgré qu'il savait que c'était une région qui était un peu dangereuse au point de vue de l'influence que ces choses-là peuvent avoir sur sa vie. Et il avait pu délivrer non seulement lui, mais toute sa famille, et il avait pu récupérer ses biens. Et non seulement ceux-là, mais ceux-là de tous les rois qui avaient été envahis, leurs biens ont pu leur revenir. Maintenant, on va reviser rapidement la première rencontre, celle d'avec Melchisédek. Parce qu'il y a quelque chose dans cela qu'on avait vu un petit peu la semaine dernière qui est important pour la compréhension des Écritures. C'est la notion de type et de d'antitype. Quand on comprend bien ça et qu'on lit les Écritures, on va en rencontrer de façon très régulière à l'intérieur de l'Ancien Testament. Et si on comprend c'est quoi le but de tout ça, qu'est-ce que Dieu fait avec ça, qu'est-ce qu'il veut nous montrer avec cela, ça va nous aider à la compréhension des Écritures dans leur ensemble. On va regarder maintenant aujourd'hui qui était Melchisédek. Alors dans le verset 18, ça dit « Melchisédek, roi de Salem », donc il était un roi. Salem, on pense que c'était Jérusalem, donc il était roi de Jérusalem, et il fit apporter du pain et du vin. Comment ne pas voir dans cet apport-là une référence au repas du Seigneur dans le pain et le vin? Alors quelque part, c'est très riche comme passage. Et ça dit de plus qu'il avait une autre fonction. Ça dit « Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut ». Donc, sacrificateur de El Elyon. El Elyon, on a vu, d'après la signification du nom, on parle du Dieu souverain, on parle du Dieu qui contrôle toutes choses, on parle du Dieu, le même Dieu qu'Abraham. Donc, il était sacrificateur, roi et sacrificateur. Normalement, dans l'Ancien Testament, les deux fonctions ne sont jamais occupées par la même personne. Pourquoi Dieu a permis que ce roi-là ait les deux fonctions? Parce que c'est un type et ça voulait nous préparer à la compréhension de qui serait Christ. On sait, serait à la fois roi, sacrificateur et prophète. On avait mentionné également que certains rabbins juifs avaient identifié que Melchisédek était un ange, ou soit qu'il était Sem, le fils de Noé. Mais, d'après les commentateurs, il semble qu'il n'y ait rien dans le texte qui puisse justifier une telle interprétation. D'autres commentateurs chrétiens, eux, ont cru voir dans la personne de Melchisédek une théophanie, c'est-à-dire une apparition de la personne de Christ sous une apparence. Et rien non plus ne justifie une telle interprétation dans le texte. Alors, bien entendu, on croit que ce sont des fantaisies qui ne résistent pas à une exégèse sérieuse. Alors, quand on regarde la signification de son nom signifie « roi de justice ». Et « roi de Salem », Salem veut dire « paix », donc il était à la fois le roi de justice et le roi de paix. Et il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. On va voir tantôt pourquoi le Seigneur, dans le psaume 110, il y a quelque chose qui avait été mentionné, qu'on a étudié quand on a fait l'hébreu. Le Seigneur avait dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, donc c'est Dieu qui parle à Dieu, qu'il faisait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi le Seigneur utilise l'ordre de Melchisédek pour parler de son fils, alors que les sacrificateurs de l'Ancien Testament devaient être des descendants de la tribu de Lévi? Tout simplement parce que dans l'Épître aux Hébreux, on étudie le problème, c'est que pour les Juifs, Jésus ne pouvait pas être leur souverain sacrificateur parce qu'il ne descendait pas de la tribu dans l'Ancien Testament. Aaron et toute sa suite venaient de la tribu de Lévi, et Christ, Jésus, venait de la tribu de Juda. Alors, pour qu'il soit souverain sacrificateur, il fallait qu'il ait reçu, en quelque sorte, son mandat de quelqu'un, un mandat divin. Et on le voit dans le psaume 110 au verset 4. Alors, maintenant, ce roi-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Abraham. On avait mentionné dans notre dernière leçon que normalement, c'est celui qui est supérieur qui bénit l'inférieur. Alors ici, on a une leçon que Melchisédek est supérieur à Abraham. Pourtant, dans les Écritures, les Juifs et les croyants considèrent qu'Abraham est le père des croyants. Donc, le père des croyants, quand il rencontre Melchisédek, considère qu'il lui est supérieur. Il le bénit. Et aussi, il bénit Abraham et il bénit sa victoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, selon le texte, verset 19b, la dernière partie du verset 19, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut. » Donc, la bénédiction passe par Dieu. et dit, là, il identifie ce Dieu-là, il est le fondateur des cieux et de la terre. Cette semaine, en préparant ma leçon de la semaine prochaine, faut que je vous le mentionne parce que fondateur des cieux et de la terre, souvent, on voit ça et on n'est pas trop impressionné. Mais j'ai revisé mes notions de la grandeur de l'univers. Si on avait un microscope qui serait suffisamment puissant pour observer des étoiles dans à la seconde, on pourrait observer 10 millions d'étoiles à la seconde avec un microscope. Maintenant, la Voie lactée, ça prendrait, je me souviens plus combien d'années, mais c'est énorme, et il y a 200 millions ou 200 milliards, je me souviens plus des chiffres, faudrait que je lire ça. Mais c'est impressionnant. Plus on étudie ces chiffres-là, quand on dit de Dieu qu'il est le fondateur des cieux et de la terre, on devrait tomber le genou par terre tellement c'est gros et c'est énorme. Et il n'a pas fait ça avec toute sa force. Il a fait ça par sa parole. Il a parlé et la chose a existé. Et quand on regarde ça aujourd'hui, les notions d'astronomie, c'est tellement grand qui le Seigneur est. Alors quand on parle de El Elyon, fondateur des cieux et de la terre, on parle d'une personne qui est puissante, pas à peu près. Pas à peu près. Et en plus, il a fait ça à partir de sa parole et la création, pas une création à partir de quelque chose qui existait déjà. En théologie, on appelle ça création ex nihilo. Donc, la création à partir du néant. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, même pas d'air, pas d'atome, rien du tout. Tu parles et tu crées cette affaire-là. On a-tu une idée? C'est renversant. Et donc, il a béni Abraham par El Elyon. Et il bénit, après ça, il se tourne de bord et il dit « Béni soit le Dieu très haut ». Donc, il bénit Abraham en premier et après, il tourne sa bénédiction vers Dieu, le souverain sacrificateur qui retourne à Dieu la gloire de toute cette aventure-là de la guerre et de tout ce qui s'est passé. Il dit « Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains ». Il n'est pas en train de dire, « Hey, Abraham, tu as dit que toi, t'es un méchant général, t'es brillant, t'es fort. » Il reconnaît que la victoire trouve sa source dans Dieu lui-même. C'est Dieu qui lui a accordé l'intelligence, la manière de procéder pour reprendre tout cela. Alors vraiment, on a ici Melchisédek qui redonne à Dieu la gloire qui lui appartient. Je pense qu'on a quelque chose à apprendre là-dedans, dans nos prières, dans toutes nos prières, de louer le Seigneur, que dans toutes nos victoires, on a des victoires des fois sur le péché ou sur toutes sortes d'affaires, retournons la gloire à Dieu, parce que c'est certainement pas par notre intelligence, par notre sagesse, par notre pouvoir ou par quoi que ce soit. Toujours retourner à Dieu. Alors, qu'on avait vu aussi Luc 10, versets 20 à 23. Le Seigneur Jésus parlait à ses apôtres et il leur dit, « Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis. » Alors, il chassait des démons et là, il s'imaginait que c'était par leur force qu'il faisait ces choses-là. Il dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis. » Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce même instant, Jésus tressaillit de joie en son esprit et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, ô Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. » Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît qui est le Fils que le Père, ni qui est le Père que le Fils, et celui à qui le Fils le voudra révéler. Est-ce qu'il a voulu nous le révéler à nous? Bien sûr, sans ça, on ne sera pas ici. Il a voulu nous le révéler. Et nous, aujourd'hui, on a une certaine compréhension de qui est Dieu, de qui est Christ, de qui est le Saint-Esprit et de bien d'autres choses à cause de Christ. Et dans le verset 23, ça nous dit « Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Ils voyaient la personne de Christ, Dieu incarné dans une chair d'homme. « Heureux les yeux que vous voyez ce que vous voyez. » Il était vraiment béni d'une façon très particulière. Alors, maintenant, ce qui fut fait à Melchisédek. On a vu qui il était, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Maintenant, on va voir ce qui lui fut fait à lui. Verset 20b, « Et Abraham lui donna la dîme de tout. » On donne la dîme à un supérieur. Quand on donne notre dîme ici, là, on la donne à l'Église, mais on la donne à Dieu. On la donne à un supérieur. Dieu nous demande de le faire, on le fait en obéissant. Si vous lisez le petit verset qui est là sur Malachie, Dieu lui dit, « Mettez-moi l'épreuve. Payez-la votre dîme, vous allez voir si je ne vous rendrai pas au centuple. » Pas au centuple, il ne dit pas comme ça, mais « si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. » Dieu est en train de nous... Dans le fond, des fois, quand on a un problème à croire ce que Dieu dit, mais quand il dit une affaire de même, le Seigneur dit « Mettez-moi à l'épreuve. » Payez-les à votre dîme, là. Puis vous allez voir, si je ne les ouvrirai pas, les écluses des cieux, les biens matériels vont arriver, vous ne saurez même pas d'où ils viennent. C'est de même ça se passe. Alors, la supériorité de Melchisédek est reconnue par Abraham parce qu'il lui paye la dîme. Autrement dit, de tous les biens qu'il a récupérés des rois qui ont été... Il a tout pris ces biens-là, puis il en a donné 10% à Melchisédek. C'était comme une façon de reconnaître Dieu dans tout cela, dans la victoire de tout cela. Et si on veut savoir, à quelque part, il faut aller interpréter ces textes-là à la lumière de ce qui est mentionné dans Hébreux, chapitre 7. On l'a étudié, Hébreux, ensemble, donc à quelque part, ça devrait nous faire remonter des choses à la mémoire. Hébreux, chapitre 7, versets 4 à 10. Ça dit « Or, considérez combien est grand celui à qui Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin, et tandis que ceux d'entre les fils de Lévi qui exercent la sacrificature ont l'ordre, selon la loi, de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham, lui qui n'était pas de la même famille qu'eux, il leva la dîme sur Abraham et bénit celui qui avait les promesses. » Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ce sont des hommes mortels qui prélèvent les dîmes, mais là, il est attesté que celui qui les reçoit est vivant. Et Lévi, qui prélève les dîmes, les a aussi payés, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla devant lui. Et vous, la vérité qu'il a annoncée ici, c'est que tu es en train de dire que quand Abraham a payé la dîme à Melchisédek, il y avait dans ses reins, ou en lui-même, la tribu de Lévi était en lui. Et c'était comme une façon de dire que les futurs sacrificateurs donnaient aussi la dîme à Abraham. C'est vraiment une image symbolique, là, mais c'était très fort comme image. Alors maintenant, on va regarder ce que Melchisédek signifie scripturairement et ce qui signifie typologiquement. Alors, psaume 110, verset 4, ça c'est, on va lire de 1 à 4, parce que c'est essentiel à comprendre pourquoi on s'attarde un petit peu sur le personnage de Melchisédek, parce que ce personnage-là, c'est un type. On vient de dire l'importance, un type et un antitype, et si on révise ça et qu'on comprend bien ça, et qu'on l'applique dans toute notre compréhension et dans notre étude des Écritures, on va être béni. Voici, ça dit, psaume de David. « L'Éternel dit à mon Seigneur. » Alors ici, dans l'original, c'est Yahweh, l'Éternel, c'est toujours c'est Yahweh ou Jéhovah. « Dit à mon Seigneur. » Alors ce sont deux noms divins. Alors ça implique une conversation, Dieu parle à Dieu. Le Père parle au Fils. Voyez-vous? Ça dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton sceptre puissant. Domine, dira-t-il, au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera un peuple de franche volonté. Au jour où ton armée sortira dans une sainte pompe, ta jeune milice sera devant toi comme la rosée naissant du sein de l'aurore. Et c'est le verset 4 qui est important. Ça dit, l'Éternel l'a juré. Pensez-vous que l'Éternel a besoin de jurer? L'Éternel dit toujours la vérité, sans aucune exception. Mais quand Dieu jure, oh, c'est parce qu'il veut exprimer une vérité avec beaucoup de poids. Alors il dit, l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Ça vient de nous dire que c'est irréversible ce qu'il déclare. Il s'en repentira point. Tu es, alors Dieu parle à Dieu, Dieu le Père parle à Dieu le Fils, et il lui dit, tu es sacrificateur à toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Dieu fait référence à Melchisédek, le personnage qui nous a été introduit ici, qui était un homme, mais que Dieu a caché sa généalogie, a caché son origine dans le but de nous montrer quelque chose de plus grand dans l'accomplissement, dans la personne de Christ. Hébreux chapitre 5, versets 5 et 6. De même, Christ ne s'est point attribué la gloire d'être souverain sacrificateur, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit, « C'est toi qui es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il lui dit aussi ailleurs, voyez-vous, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. » Vous l'avez dit, alors, pour les Juifs, et c'est très compréhensible que c'est un problème pour eux, ça faisait des milliers d'années qu'ils faisaient un système sacrificiel selon une certaine façon qui avait été introduit par Dieu lui-même, par le personnage d'Aaron, et les fils, il fallait que tu sois quelqu'un de la tribu de Lévi pour faire ce qu'on a vu dans le tabernacle aussi. Ça donne bien pour toutes les choses qu'on a fait cette église-là. Alors, on peut se remémorer cela. Et lui dit que l'autorisation de devenir leur souverain sacrificateur, il l'a reçu de Dieu le Père lui-même. On peut-tu recevoir un mandat plus fort que ça? Un mandat plus solide que cela? Hébreux, chapitre 6, versets 17 à 20 et versets, les trois premiers versets du chapitre 7. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer encore mieux aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résurrection, de sa résolution. Autrement dit, l'immutabilité, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Intervint par le serment, afin que par ces deux choses immuables, c'est quoi les deux choses immuables? La parole de Dieu elle-même, et en plus, Dieu jure. Deux choses immuables, tu ne peux pas bouger. Dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons une ferme consolation, nous cherchons un refuge dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Espérance que nous gardons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, qui pénètre au-dedans du voile, où Jésus est entré pour nous, comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Quand on se souvient de notre leçon sur le tabernacle, ceux qui étaient ici, une fois par année, le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le Saint des Saints. Christ, quand il est mort, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas pour signifier que maintenant, le chemin vers Dieu le Père était ouvert à cause de son œuvre, à cause de sa mort sur la croix. Alors, ça représentait le rideau qu'il y avait entre le Saint et le Saint des Saints. Et au moment de la mort de Christ, le rideau s'est déchiré de haut en bas. Encore là, très significatif. Dieu indiquait qu'à cause de la mort de Christ, la voie vers Dieu le Père était ouverte. Verset 1, chapitre 7, car c'est ce Melchisédek, roi de Salem, et sacrificateur du Dieu souverain, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout le butin. D'abord, Melchisédek signifie roi de justice. De plus, il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il a été sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, rendu semblable. Le mot ici, « clé de la compréhension, c'est quand les gens disent que c'est une théophanie de Christ, ils disent pas que c'est Christ, ils disent rendu semblable. Quand quelque chose est semblable, ce n'est pas l'identité. Il demeure sacrificateur pour toujours. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une petite révision de ce que c'est un type. Vous les avez dans vos leçons, à quelque part, je ne me souviens pas dans quelle leçon j'ai mis ça, mais vous avez dans vos leçons que je vous ai données, vous avez toutes des copies de ça. Relisez ça et essayez de vous rentrer ça dans la tête, parce que quand on lit les Écritures et qu'on met ça et qu'on comprend comment ça marche, on voit Christ partout. Et ça, c'est le but. Voyez-vous, la définition de qu'est-ce que c'est un type. Un type, c'est une personne. Donc, ici, dans le cas, ça peut être Abraham. Ça peut être une autre personne aussi. Ça peut être Aaron. Une personne, un événement. La Pâque. Dans Exode 12, vous avez la description du repas du Seigneur que le Seigneur a pris le soir avant de sa passion. Il prenait le repas du Seigneur, la Pâque juive, qui avait, il fallait que tu sois un agneau, il y avait toute la cérémonie était décrite là. C'est ça que Christ a fait le jeudi avant sa mort. Donc, ça peut être un événement aussi. Ça peut être une chose aussi. Donc, un type, c'est une personne, un événement ou une chose. Un exemple de chose, le tabernacle. Le tabernacle, tout parle de Christ dans le tabernacle, tout, absolument tout. Et maintenant, il faut que, pour que ça corresponde à un type, il faut que ça ait une réalité historique. Il faut qu'à quelque part, tu sois capable de démontrer que la personne dont on parle, l'événement dont on parle, ou la chose dont on parle, est une réalité historique. Donc, on sait qu'Abraham a eu une réalité historique. On sait que le tabernacle a eu une réalité historique. Après ça, il faut que ça comporte un élément prophétique. Il faut qu'il y ait un élément que Dieu veut lui montrer quelque chose par rapport à ce qui va venir plus loin, beaucoup plus loin. Et dont l'accomplissement dans le Nouveau Testament, le type se trouve dans l'Ancien, l'antitype se trouve toujours dans le Nouveau. Pourquoi il se trouve dans le Nouveau? Parce que les choses, la personne, les événements, ou la personne, les événements ou la chose parle toujours du personnage à venir qui va s'accomplir, qui va se réaliser dans le Nouveau Testament. Et tout cela va manifester la supériorité de l'antitype sur le type. Alors, le type, c'est comme un symbole. Si moi, je m'en vais en France, par exemple, puis je rencontre quelqu'un avec un pack-sac sur le dos, puis je vois le drapeau du Canada. Je sais que c'est pas le Canada, là, mais je sais que c'est un symbole du Canada. Alors, mes chances que ce gars-là soit canadien sont fortes. C'est un symbole. Alors, Dieu met des choses comme ça dans les Écritures pour nous pointer vers quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus spirituellement riche dans la personne de Christ. Alors, ce sont des choses qui parlent de Christ, mais du Christ à venir et dont l'accomplissement va se révéler dans le Nouveau Testament. Et c'est toujours désigné comme tel dans le Nouveau Testament. Voyez-vous, la définition est simple, mais si on retiendrait ça pour interpréter les Écritures, je vous le dis, c'est très riche. Il faut le retenir. Alors, on va prendre des exemples. C'est facile, quand on a un exemple, on comprend mieux. Des personnes, Aaron, en serait un, Melchisédek, en serait un autre, et il y en a d'autres. Là, je vous en donne deux. Les événements, la Pâque juive, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des tabernacles, le sabbat. Toutes ces choses-là pointent vers quelque chose dans le Nouveau Testament. Des choses, maintenant. Le tabernacle, le rideau séparant le saint du saint des saints, l'offrande de l'Holocauste dans Lévitique 1, l'offrande de fleurs de farine dans Lévitique 2, l'offrande des sacrifices de prospérité dans Lévitique 3, l'offrande des sacrifices pour le péché dans Lévitique 4. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, les premières fois que j'ai lu les Écritures d'un couvert à l'autre, puis je suis tombé sur Lévitique, je peux vous dire une chose, je n'ai pas compris grand-chose. Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'on ne cherche pas Christ là-dedans, parce que tout parle de Christ dans les Écritures. Et quand vous vous mettez à lire les Écritures et à comprendre la relation que ces passages-là ont avec
le Nouveau Testament et la personne de Christ, là, vous faites, oh, vous êtes émerveillé. Et dans les Écritures, là, les types, là, quand on les comprend, puis quand on se met, pourquoi le tabernacle est intéressant? La première fois que vous avez lu le tabernacle, est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Moi, je vous avoue que j'ai pas compris grand-chose. Des planches, de la toile, des animaux, des objets que je comprenais pas trop comment ils étaient faits. Mais à partir du moment où que tu illustres ces choses-là et que tu reconnais que ces choses-là pointent vers la personne de Christ, n'est-ce pas qu'on fait « Ah! » Ben c'est ça, les Écritures sont riches, mais il faut prendre la peine de chercher Christ. Chercher Christ dans toutes les pages, il est là, partout, dans toutes les pages. OK, on va passer maintenant. Il est sûr qu'on aura encore beaucoup de choses à dire sur Melchisédek. On pourrait faire une étude de plusieurs jours, plusieurs heures sur le personnage de Melchisédek et comment Dieu s'en sert pour parler de son fils Christ, qui était un personnage à venir. Alors, on comprend que c'est un type, mais je peux vous garantir une chose, un chrétien débutant qui commence à lire sa Bible, quand il arrive dans Genèse 14, on s'entend-tu qu'il ne voit pas nécessairement un type dans Melchisédek? Pourquoi... Comment il s'appelle celui qui a eu des orphelinats en Angleterre? George Miller. George Miller, il a lu la Bible 120 fois dans sa vie. Il a lisait en moyenne 3 à 4 fois par année. Et une déclaration qu'il fait, c'est que plus tu la lis, plus tu la comprends, plus tu la trouves merveilleuse. Puis moi, je peux vous dire une chose, je suis parfaitement et 100% d'accord avec lui. Plus on l'étudie, plus on la comprend, plus on applique des principes comme le type, l'antitype, le symbolisme et tout ça. C'est tellement riche, les Écritures. Notre problème, c'est qu'on lit trop rapidement, trop superficiellement, et on manque des richesses, des beautés, de l'harmonie, extraordinaire. Alors, je ne referai pas tout le tableau comparatif entre Melchisédek et Jésus-Christ. On avait fait ça lors de notre dernière leçon. Là, on arrive à la section où il va rencontrer maintenant le roi de Sodome. Alors, Genèse 14, versets 17 et 21. Le verset 17 nous dit qu'ils se sont rencontrés, mais ils ne disent pas plus que ça. Ça va un petit peu plus loin. Il y a le premier verset. Après ça, il y a l'histoire de Melchisédek, et après, il revient dans le verset 21 pour nous parler qu'est-ce qui s'est passé dans la rencontre entre Abraham et le roi de Sodome. Alors, le verset 17 dit « Et le roi de Sodome sortit au-devant de lui, donc au-devant d'Abraham, après qu'il fut revenu de battre Kedor Laomer. » Quand on va au-devant de quelqu'un, c'est parce que soit tu veux lui dire « Félicitations », ou soit tu veux lui demander quelque chose. Il va le rencontrer. Et dans le verset 21, on voit qu'est-ce que le roi de Sodome dit à Abraham. Il s'appelle encore Abraham, tant que Dieu ne lui changera pas son nom. Il lui dit, « Donne-moi les personnes et prends les richesses pour toi. » Alors ici, on parle de l'attitude d'un roi vaincu qui va rencontrer un vainqueur puis qui demande des choses. Alors, les commentateurs ne s'entendent pas sur comment on se doit d'interpréter l'attitude du roi de Sodome. Alors, pour certains, ils voient dans la proposition qu'il fait à Abraham de la reconnaissance et de la modération dans ses demandes. Il demande juste les personnes, il ne demande pas les biens. D'autres voient de l'arrogance parce que il ne possédait plus aucun droit. Quand tu n'as plus de droit, tu ne demandes pas des choses. Et il faut savoir aussi qu'il y a une autre façon d'interpréter le passage, c'est qu'il y a certaines personnes qui croient qu'il demandait les personnes parce que plus tard, dans les Écritures, dans Genèse, il est exprimé par Dieu quel genre de personnes c'était Sodome et Gomorre. Pourquoi il voulait avoir les personnes? Est-ce que c'était dans le but de pécher avec ces personnes-là, comme il avait toujours l'habitude de faire. Certains peuvent croire que c'est ça. Alors, mais c'est pas mentionné. Alors, quelque part, comment on se doit d'interpréter son attitude? C'est peut-être un petit peu tout ça. Maintenant, l'attitude d'Abraham devant la demande du roi de Sodome dans les versets 22-23. Alors, il se fait recevoir une demande. Le roi vient devant de lui, le roi de Sodome, puis il lui dit, « Donne-moi les personnes et garde-les bien. » Maintenant, Abraham va répondre. Abraham répond, et Abraham dit au roi de Sodome, « Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre. » Voyez-vous, dans la réponse, Dieu est présent et bien identifié. « Je lève ma main. » Alors, quand tu lèves ta main, c'est dans le but de quasiment comme de jurer. Si tu veux, tu lèves ta main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Il dit au roi de Sodome, « Que je ne prendrai pas même un fil. » Alors ça veut dire « main dans les petites choses. Je ne prendrai rien. » Ou une courroie de souliers. Alors, c'est vraiment l'idée, c'est d'exprimer que je ne toucherai à aucun bien. Après ça, il dit, « Rien qui t'appartienne, en sorte que tu ne dises, c'est moi qui ai enrichi Abraham. » Autrement dit, il est détaché des choses de la terre, puis il dit, « Je veux pas que tu viennes me reprocher plus tard. » Ben oui, on sait bien, Abraham, il est riche, mais c'est mes biens qu'il a. C'était plus ses biens. Ils avaient perdu complètement. Mais Abraham lui dit, non seulement je vais t'ordonner tes personnes, mais en plus je vais t'ordonner tes biens. Est-ce que ça démontre un peu la grandeur d'âme d'Abraham, son détachement des choses, et aussi toute la compréhension des choses spirituelles, de ne pas avoir à subir quelqu'un qui vienne lui faire des reproches après, un païen. Il met toute la gloire à Dieu, je lève les mains, je prendrai... Écoute, je n'ai pas été chercher Lot et tes biens et ton peuple et le bien des autres rois juste pour m'enrichir. Autrement dit, sa motivation devenait une motivation de pureté. Alors ça, il avait besoin de le mentionner. Alors, il reconnaît El Elyon dans sa manière de s'exprimer. Il y a une chose importante aussi qui est mentionné dans le psaume 15, les versets 1 à 4, par rapport à notre parole. Tu sais, des fois, on dit, quelqu'un, lui, sa parole, on parle des anciens du Québec. Je me souviens qu'on dit souvent, lui, là, quand il dit de quoi, là, c'est comme une parole d'évangile. Il y a des personnes que quand ils disent quelque chose, là, ils se tiennent en arrière de ce qu'ils disent. C'est comme si ça serait écrit. Mais de nos jours, j'avoue, que c'est quelque chose qui se perd. Vieille de beaucoup. Alors, le psaume 15, versets 1 à 4, dit « Psaume de David, l'Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle, qui habitera sur la montagne de ta sainteté. C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur, qui n'emploie pas sa langue à médire, qui ne fait point de mal à son prochain et ne jette point l'opprobre sur son prochain, qui regarde avec dédain l'homme méprisable, et honore ceux qui craignent l'Éternel. » Et le dernier verset, la dernière partie du verset est tellement importante pour nous, les chrétiens. « Et s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien. » L'importance d'avoir une parole. Quand on dit quelque chose, tenons-nous, réfléchissons avant de parler, peut-être, ça serait peut-être une bonne idée. Puis après qu'on le dit, faisons ce qu'on a dit. Alors, on va voir qu'il utilise les titres de Dieu. Quand il parle, il dit vers le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre. Ça, c'est une chose. J'ai un petit livre que je me suis acheté récemment, même pas deux, j'en ai acheté trois. Trois qui parlent des titres de Dieu, des titres de Christ, des titres du Saint-Esprit. On l'avait vu un petit peu dans nos leçons sur la théologie systématique en bas, quand on a vu. Dieu a des noms, comme El Elyon, comme El Shaddai, comme il y en a plein d'autres. Là. À quelque part, Dieu aime qu'on s'adresse à lui par un nom qui le qualifie, qui le présente sous un jour où il est... si on parle de Dieu qui guérit, on parle de Dieu qui guérit. On parle de Dieu El Shaddai, c'est le Dieu de la, c'est le Dieu tout suffisant. Alors, c'est plein de noms comme ça. Il y en a plus d'une centaine. On en connaît peu, malheureusement. On devrait les connaître. Parce que le petit livre que je me suis acheté, c'est le livre qui vient nous présenter comment on devrait utiliser les noms de Dieu et prier par ces noms-là. Je trouve ça très intelligent. Tu t'adresses à Dieu, tu veux obtenir de la miséricorde, tu t'adresses à lui par son nom miséricordieux. Tu veux obtenir de la sainteté, tu t'adresses à lui dans son aspect de son nom qui représente la sainteté, etc., etc. C'est très intelligent de prier de cette façon-là. Alors, lui dit ici, « Je lève la main vers l'Éternel, Jéhovah. » Le Dieu très haut, El Elyon, le Dieu dominateur, le Dieu qui contrôle tous les événements de la terre, les nations, les individus, les circonstances. Donc, il parle à quelqu'un, puis il utilise les noms de Dieu dans son discours. Et, n'est-ce pas qu'il fait preuve d'une grande magnanimité? Il a tout ramassé ses biens de ces gens-là. S'il avait voulu, là, il venait juste devenir millionnaire et mettez-en. Regardez, zéro pour lui, zéro. Alors, la grandeur d'âme d'Abraham, pour croyant, on l'appelle le père des croyants, on a beaucoup de choses à apprendre d'Abraham, beaucoup de choses. Alors, il fait preuve d'une très grande générosité en remettant à la fois les personnes et les biens du roi de Sodome et de ses citoyens et des autres rois également. Mais, autre chose qu'on observe dans le texte, c'est sa tendre conscience. On peut, nous, personnellement, moi, c'est une leçon qu'on apprend dans ce texte-là, que je trouve très importante, on peut personnellement renoncer à des choses. Quand on agit collectivement, moi, je peux dire, ben moi, ma part, je ne la veux pas. Mais s'il y en a d'autres qui t'ont aidé à accomplir une action, tu n'as pas le droit de choisir à leur place qu'est-ce qu'eux doivent faire. Autrement dit, il n'engage que sa personne, il n'engage que sa conscience, et il dit, maintenant, ceux qui m'ont aidé, eux vont avoir leur part, parce qu'ils ont mangé, ils ont mis de leurs ressources pour venir m'aider, pour venir vous libérer, maintenant, eux, ils vont avoir leur part. Lui, il renonce à la sienne, pour pas qu'on l'accuse plus tard, mais dans le fond, il n'engage pas le comportement des autres. S'ils ont à la donner, ils donneront. Mais lui, il s'embarque pas là-dedans. Il est juste. Alors, il reconnaît aussi que la source de sa richesse, c'est Dieu lui-même. Regardez le verset 24. Il dit, « Rien pour moi. » Rien, c'est pas beaucoup, ça. C'est pas beaucoup. Quand tu as toutes les richesses devant toi, là, il aurait pu dire, « Tout ça, là, ta bébé. » Il a dit, « Non. » Ça, je veux rien pour moi. Mais pour ceux qui m'ont aidé, eux vont avoir leur part. Il était juste en plus. C'est ça qu'il dit le verset 24. Rien pour moi, seulement ce que les jeunes gens ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Escol et Mamré, pour eux, qu'ils prennent leur part. Alors, je trouve ça... Juste dans un petit passage comme ça, c'est quand même pas beaucoup de versets, hein, 17 à 24. Là. Si on se mettait à écrire toutes les applications qu'il peut y avoir pour nos propres vies là-dedans, je pense qu'on aurait pour un bout. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre dans juste un petit passage comme ça. Alors, Abraham ne s'engage que personnellement. Il ne veut pas faire d'injustice envers ceux qui l'ont aidé dans cette guerre. Il restreint sa propre liberté, mais il ne veut pas imposer aux autres des contraintes sur leur liberté. Ses collaborateurs recevront une compensation pour leur contribution en toute justice, parce qu'eux, ils ne s'étaient pas placés eux-mêmes sous une obligation d'un serment solennel. Alors, on pense qu'Abraham a fait le serment à Dieu que s'il obtenait la victoire, il ne ramasserait rien. Alors, quand tu fais un serment solennel, comme on a vu tantôt dans le psaume 15, tu as dit quelque chose, fais ça ton dommage, respecte ta parole. Alors, je vois au moins trois applications dans le texte d'aujourd'hui. La première, la reconnaissance de la providence d'El Elyon dans toutes nos circonstances est essentielle. Est-ce que nous, comme chrétiens, on reconnaît que toutes les choses qui se passent dans nos vies, et on sait comment ça en passe, prenons le temps d'analyser une journée au complet avec tous les petits événements qui se passent, il n'y a rien qui nous arrive sans que l'Éternel l'ait permis, et tout cela pour des raisons sages. Alors nous, de s'habituer à voir la main de Dieu, la main d'El Elyon dans nos vies, c'est quelque chose qu'on devrait prendre l'habitude. On a de la misère avec ça. Parce que dès que ça ne marche pas comme on aimerait, des fois, on peut se porter à ruer des brancards, chialer. Alors que si on garderait la paix de l'âme, dire « Seigneur, ça me fait souffrir ce qui arrive, mais tu as très certainement une raison sage de le permettre dans ma vie, que la gloire te soit rendue et donne-moi de garder ma paix. » Alors, si on apprendrait à agir de ça. Alors, est-ce qu'on voit la main de Dieu dans le déroulement de ce qui arrive dans notre vie? Alors, je voudrais poser la question autrement. Le savons-nous intellectuellement ou pratiquement? Ou les deux? Parce que pour le savoir pratiquement, il faut que tu commences par le connaître dans ta tête. Mais ensuite, le mettre dans ta vie de tous les jours, quand il arrive des choses, il en arrive-tu des événements souffrants dans nos vies? Je pense que c'est dans Job où ça dit que la vie de l'homme, là, c'est comme des étincelles qui montent. Tu sais, quand on fait un feu, hein, les étincelles n'arrêtent pas de monter. Hein, bien, ils servent de ça comme image pour nous parler que notre vie va être remplie de toutes sortes de choses, de souffrances, d'épreuves, de difficultés, d'afflictions. Mais faut pas penser que ces choses-là arrivent toutes par hasard. Dieu les contrôle dans notre propre vie, à tous les individus. Il le fait non seulement pour les individus, mais il le fait aussi pour les nations. Imaginez-vous la grandeur que le Seigneur faut qu'il ait pour être capable de tout contrôler, tout cela. Des milliards de personnes, on ne parle plus de millions, là. Il sait les circonstances absolues d'absolument tout le monde. Et le fameux Romains 8, 28. On l'a-tu entendu souvent, Romains 8, 28? Y a-tu un saint sur la terre qui comprend et qui applique à 100% Romains 8, 28? Je n'ai aucune crainte de dire aucun. Parfaitement, là. Je viens parfaitement. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et dans le grec, c'est toute chose travaille ensemble. C'est comme un tricot. C'est tissé par le Seigneur. Les événements sont tissés. Travaillent ensemble. Les choses travaillent ensemble pour notre bien. Alors, quand il nous arrive quelque chose qui nous fait souffrir, est-ce qu'on est capable de garder notre calme? Est-ce qu'on est capable de reconnaître la main de Dieu dans tout cela? Parce qu'elle est là. Des fois, ça fait mal. On a tous quelque chose qui fait mal dans nos vies. On a tous, sans aucune exception. Mais quelque part, d'être capable de baiser la main de celui qui te l'envoie. Parce que c'est rempli d'amour, c'est rempli de miséricorde, c'est rempli de sagesse et de bien d'autres choses. Tous les attributs de Dieu sont révélés à travers ces événements-là. Deuxième application, rappelons-nous que toutes nos victoires trouvent leur source dans le Dieu Très-Haut. Implorons son secours dans nos combats avec la chair. On a-tu des combats dans la vie? Combat avec la chair, ça en est tout un. Oh! Moi, je vous en témoigne quelque chose. Notre combat avec la chair est énorme, est très gros, il est constant, il ne lâche pas la chair, elle veut toujours reprendre ses droits, elle veut toujours s'imposer, elle veut toujours nous ramener dans ses voies, dans ses manières de faire, dans ses manières de penser, etc. Les combats sont énormes, mais il faut aller demander la puissance, la force, là où elle est. Tu as de la misère avec quelque chose. Mais fais pas juste dire, « Ah, ben là, je vais essayer de changer ça. » Tu réussiras pas. tu ne changeras rien du tout. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peu importe le problème que tu as, que ce soit un défaut avec lequel tu as de la misère, peu importe, il y a plein de choses. Trouvons la force là où elle est. Et remercions quand on a des victoires, parce que Dieu nous dit qu'on se devrait de voler de victoire en victoire, et non pas de défaite en défaite, parce que ça, c'est pas scripturaire, de défaite en défaite, mais de victoire en victoire, ça, c'est scripturaire. On serait censé d'aller de plus en plus de victoire en victoire dans le combat contre la chair. Et un autre combat, n'est pas rien qu'un, veut aussi travailler ensemble, la chair, Le monde. Le monde n'arrête pas de nous proposer toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses qui veulent nous éloigner de Dieu. On a un double combat. Et on a un autre en plus, Satan. Si, moi je suis convaincu, tu sais, des fois quand on lit Éphésiens 6, quand on parle qu'on est en guerre spirituelle, des fois on lit ça un petit peu, guerre spirituelle. On ne voit rien. Nous autres, quand on ne voit rien, on pense qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, donc il n'y a rien. Mais Dieu nous dit qu'on est entouré par Satan et ses anges qui ne nous lâchent pas d'une semelle, même si on ne s'en rend pas compte. Là. Le combat, il est réel, il est là, il est important. Et il faut demander à Dieu de nous donner d'être capable de résister. Premièrement, d'identifier, parce que bien souvent, on peut voir la main du malin dans différentes choses qui arrivent dans nos vies. Et de reconnaître et d'implorer le Seigneur de nous donner, d'être capable d'avoir des victoires sur ces choses-là. Et quand on demande à Dieu des choses qui sont selon sa volonté, combattre notre chair, combattre le monde, combattre Satan, pensez-vous que le Seigneur est disposé à vous donner ce que vous avez besoin? Oui, il est disposé. Mais il faut le demander à tous les jours. Troisièmement, apprenons d'Abraham dans ses attitudes envers les autres. Il y a plusieurs attitudes. Premièrement, la générosité. Il aurait bien pu dire à son neveu, « Écoute, le jeune, tu as voulu faire ton anneau, maintenant, paye. » Non, il a tout ordonné ses biens, il a ordonné sa liberté. Puis en plus, il aurait dû comprendre Lot. Il n'a rien compris, il est retourné encore dans la même place qu'il était avant. La preuve que parfois le Seigneur se sert de quelque chose pour nous corriger, qu'on ne comprend pas, on retourne encore dans le même péché, on retourne encore dans la même misère, on retourne encore. Mais à quelque part, on sait que s'il y a une personne qu'on ne devrait pas imiter dans les Écritures, c'est bien Lot. Et sa vie n'est pas... Mais le Seigneur dit qu'il était juste. Alors la générosité d'Abraham, son détachement des choses de la terre. Je ne sais pas combien d'entre nous seraient capables de résister à ça. Tu as été le guerrier qui a ramassé tous ces biens-là, puis de dire « rien pour moi ». Il faut vraiment que tu sois détaché. La magnanimité, la grandeur d'âme, la générosité, la reconnaissance de Dieu dans nos victoires et aussi la capacité de faire justice à tes collaborateurs. Parce que si des personnes t'aident à faire quelque chose, tu peux renoncer à tes droits, toi personnellement, mais tu n'as pas à engager la responsabilité des autres à ta place, à leur place. Alors, prions le Seigneur de nous donner des attitudes qui se traduisent par des gestes et des comportements concrets. Que le Seigneur soit béni pour son don ineffable, la personne, la glorieuse personne de Jésus-Christ. Amen.